l'organisation de libération de la Palestine à Washington. Sarah Daoud, quel va être l'impact de cette décision sur le processus de paix?
C'est de toute façon un énième rebondissement dans tout ce qui s'est passé cette année. La nouvelle administration américaine donne beaucoup de fil à retordre à l'autorité palestinienne, ça c'est certain. Je pense que de toute façon il y avait des signes avant-coureurs. Ça a commencé déjà avec la menace brandie par les États-Unis de fermeture de la mission de représentation de l'OLP à Washington déjà en novembre dernier. Et puis toute une série de mesures aussi qui visent à affaiblir l'autorité palestinienne dans le cadre des négociations, en sachant qu'il y a déjà une asymétrie depuis Oslo dans le cadre des négociations entre l'autorité palestinienne et Israël de l'autre côté. Donc à mon sens, les États-Unis de toute façon ne se positionnent plus comme médiateurs depuis bien longtemps.
Alors on va revenir sur toutes ces questions dans un petit moment. Washington reproche aux dirigeants palestiniens de n'avoir pas engagé des négociations directes avec Israël, de refuser de discuter avec le gouvernement américain au sujet des efforts de paix. Scott Bob, comment comprendre ce refus de dialogue de la part des autorités palestiniennes?
Eh bien, ça fait partie de son long procès d'endurcissement qui dure depuis plus d'une décennie, depuis l'intifada deuxième des années 90. Mais je vois du point de vue de l'administration Trump, non seulement l'accomplissement d'une promesse faite aux chrétiens évangéliques qui forment une partie très importante de sa base politique, mais aussi démontre une tendance, une volonté de prendre des positions radicales pour ébranler la situation existante, pour débloquer une impasse, ce qui existe depuis longtemps dans le processus.
Mais que cherche-t-il à obtenir? Ramener les Palestiniens à la table des négociations?
C'est ce qu'il exprime, mais on sait très bien que en faisant cela, il essaie de les ramener, mais dans une position un peu affaiblie, en profitant de cette impasse qui a et les divisions au sein des Palestiniens politiques qui affaiblissent tout le processus, mais surtout qui n'avancent rien.
Alors, je reviens vers vous, Sarah Daoud. Lorsque l'OLP ne discute plus, en quoi est-ce que ça fait avancer la cause palestinienne?
Ça ne la fait pas avancer, c'est certain, mais de toute façon, le statu quo perdure depuis un certain temps. Et le problème, à mon avis, de fond, c'est que les tentatives américaines de médiation, que ce soit Camp David en juillet 2000 ou à Washington en septembre 2010 ou encore le cycle de conférences qui a été ouvert par l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry en 2013, toutes ces initiatives de paix-là, de toute façon sous égide américaine, se heurtent à une structure de négociation, à savoir le cadre d'Oslo tel qu'on le connaît depuis 1993, qui est aujourd'hui obsolète.
Alors, les dirigeants de l'OLP ont condamné le plan de paix américain sans même l'avoir vu. Comment le comprendre, Sarah?
Les dirigeants américains ont enterré le plan de paix, ont proposé un plan de paix. Est-ce que vous pouvez me répéter la question, parce que
C'est-à-dire que l'administration Trump dit travailler sur un plan de paix et il semblerait déjà que l'OLP se soit positionné.
Et on est pris connaissance.
N'en est pas pris connaissance, mais en tout cas, ils disent qu'ils ne veulent pas en entendre parler.
Oui, bien sûr. Enfin, il y a eu en mars 2018 des morceaux de ce plan de paix en question ont fuité, ou en tout cas l'autorité palestinienne, des membres de l'autorité palestinienne du Fatah s'étaient rendus en Arabie Saoudite justement pour prendre connaissance de ce plan de paix là. Ils ont annoncé qu'ils n'avaient même pas lu le plan de paix, ils l'avaient rejeté sans l'avoir lu, parce que de toute façon il s'agissait d'un document qui était inacceptable à leurs yeux. Et on parle de notamment octroyer aux Palestiniens un bouddhisme comme capitale d'un État palestinien, bon, enterrer le droit au retour des réfugiés. C'est des sacro-saints principes sur lesquels les Palestiniens, en tout cas formellement, ne renonceront pas. Donc, c'est même un plan de paix arabe, même si évidemment on n'en connaît pas encore les tenants exacts, qui est de toute façon aussi rejeté par les alliés entre guillemets actuels des États-Unis dans le monde arabe, soit l'Égypte ou la Jordanie.
Dans ce contexte, hein, Scott Bob, est-ce que les Américains gardent leur statut de médiateur?
L'administration Trump pense le garder, mais pour beaucoup d'Américains, non. Cet acte d'aménager l'ambassade à Jérusalem et de fermer le bureau palestinien à Washington vraiment rend la position caduque des États-Unis comme médiateur. On verra. M. Trump aime prendre des risques en politique comme dans le monde des affaires, et on verra si ça donne quelque chose. Mais pour le moment, on n'a pas l'impression que ça va marcher.
Alors, avant la fermeture de la représentation de l'OLP, l'administration Trump avait déjà pris une série de mesures contre la direction palestinienne. En janvier, Donald Trump a réduit de moitié l'aide à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Puis en août, l'administration américaine a annulé plus de 200 millions de dollars d'aide au territoire palestinien. C'est la question soulevée par notre chaîne partenaire au Niger. Regardez.
Bonjour Washington Forum, c'est Amadou, rédacteur en chef Canal 3 Niger. L'administration Trump a annoncé le 31 août dernier sa décision de ne plus financer l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Quelles seront les incidences de cette décision sur ces populations palestiniennes et le retour de la paix dans cette partie du monde en vertu du statut de médiateur privilégié des États-Unis dans le processus de paix au Proche-Orient? Merci Washington Forum.
Alors Sarah Daoud, hein, une réaction, quelles conséquences sur les réfugiés?
Évidemment, c'est catastrophique dans la mesure où les États-Unis étaient un des premiers bailleurs de fonds de cette organisation-là, organisation qui pâtit déjà depuis un certain nombre d'années des retards de versements des paiements des pays tels que les États-Unis notamment. Et bon, ça survient à un moment en plus particulier puisque les camps de réfugiés, il y a une sorte de disjonction aujourd'hui entre l'autre interlocuteur évoquait tout à l'heure, cette fragmentation palestinienne multiple, et notamment entre les camps de réfugiés et l'autorité palestinienne, et il y a une forme de contestation qui émane aujourd'hui énormément des camps de réfugiés qui se sentent complètement laissés à l'abandon.
Et donc du coup, quelles conséquences ça pourra avoir sur les efforts de paix?
Sur les efforts de paix, bon, c'est des questions qui sont assez dissociées, mais le droit au retour des réfugiés, c'est quelque chose qui, plus ça va, plus qui s'apparente à véritablement un droit au retour davantage symbolique que véritablement concrétisable. Évidemment, encore une fois, ça s'inscrit de toute façon dans ce rejet ou ce dédain des États-Unis vis-à-vis du multilatéralisme d'une façon générale. Il suffit de voir aussi leur retrait plutôt dans l'année de l'UNESCO, suite au retrait d'Israël de l'UNESCO également. Donc, ça s'inscrit d'une façon générale dans un rejet ou du multilatéralisme aujourd'hui de la part des États-Unis.
Scott Bob, comment est-ce qu'on peut expliquer cette mesure prise par les États-Unis?
Eh bien, je pense que du point de vue de l'administration Trump, ils essaient d'enlever un grand obstacle au processus, ce qui était l'avenir, le sort des réfugiés palestiniens et leurs descendants. Ils sont plusieurs millions et ça faisait toujours un problème. On se rappelle que quand, sous le premier ministre Ehud, Il y a eu un problème. Israël a offert laisser 5 000, quelques milliers rentrer, ce qui était inacceptable aux Palestiniens. Alors peut-être l'administration essaie d'enlever cet aspect complètement du processus, ce qui est vraiment très difficile.
Mais des observateurs redoutent une augmentation de l'instabilité. Qu'en dites-vous?
Oui, mais d'ailleurs, l'instabilité dans les territoires palestiniens existe depuis très longtemps. À Gaza, c'est toujours terrible. Les conditions de vie que vivent les Palestiniens au Gaza sont misérables pour la plupart. Donc, ça ne fait qu'ajouter déjà aux misères et peut-être, selon l'administration, essayer de faire encore plus de pression pour qu'on trouve une sortie de cette impasse.
Allez, on va laisser un petit peu cette affaire de réfugiés de côté. L'OLP a entrepris des démarches visant à poursuivre les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Sarah Daoud, ces démarches ont-elles une chance d'aboutir ?
Alors oui, c'est pas récent. L'OLP, à travers la figure de son ministre des Affaires étrangères, avait déposé, en adhérant au statut de Rome en 2015, 3 dossiers concernant Israël, notamment la colonisation, le crime de guerre contre Israël par rapport aux enfants prisonniers contre Gaza en 2014. Quelle chance est-ce que ces plaintes ont d'aboutir? D'abord, il faut savoir que depuis 2015, depuis la ratification du statut de Rome par l'autorité palestinienne, les dossiers en question sont encore au stade de l'examen préliminaire. C'est-à-dire que suite à cet examen-là, la procureure doit se prononcer si oui ou non elle accepte d'ouvrir une enquête. C'est un processus qui est très long en général. Et c'est une forme de justice, à mon avis, la justice pénale internationale qui n'est pas forcément adaptée à ce que aux demandes des Palestiniens qui déjà ne peuvent pas porter plainte contre Israël pour des crimes qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur du statut de Rome en 2002. Donc ça réduit déjà la marge de manœuvre.
Mais aussi tout simplement, Israël n'est pas membre de la CPI et donc n'est pas du tout tenu de coopérer.
Les États-Unis non plus. Ouais. Les États-Unis non plus d'ailleurs. Donc ça, évidemment, c'est un frein considérable. Toutefois, la CPI a une compétence à la fois, elle peut juger des crimes qui ont été commis soit sur le sol d'un État membre ou par un ressortissant d'un de ses États membres, les deux n'étant pas nécessairement cumulatifs. Donc, elle peut estimer pouvoir enquêter en Israël, si toutefois, justement, parce que c'est tout là le problème de cette institution-là, qui repose sur la coopération de ses États membres, ou des États d'une façon générale, il faut que Israël accepte tout simplement qu'elle puisse enquêter, que les juges puissent enquêter sur le terrain. C'est très compliqué, évidemment.
Scott Bob, de façon plus globale, quelle est la politique de Trump vis-à-vis du Proche-Orient? Des observateurs accusent l'administration américaine d'adopter une politique anti-palestinienne. Qu'en dites-vous?
Eh bien, c'est assez évident. De leur point de vue, c'est vrai. Du point de vue de l'administration, peut-être ce n'est pas aussi noir et blanc. Mais le problème que j'ajouterai à mon collègue, c'est que non seulement l'administration Trump, mais aussi d'autres administrations américaines se sont déjà montrées prêtes à bouder les décisions des organes internationaux. Donc que ceci aboutisse à quelque chose de concret, je m'en doute. Mais ça a aussi à l'effet de rendre les États-Unis, comme l'Israël, de plus en plus à l'extérieur de toute cette communauté internationale juridique.
Sarah Daoud, quelles sont les revendications palestiniennes qui, à ce jour, sont soutenues par les États-Unis?
Pas, à mon avis, pas énormément. Je pense que les Palestiniens, de toute façon, vous l'avez rappelé également, ils ont d'une part rompu les communications, en tout cas officiellement. Il y a toujours une part de rhétorique hein, dans le discours des officiels palestiniens, mais je pense que de toute façon, ils n'attendent pas grand-chose de cette administration américaine pour le moment, sans toutefois pouvoir se permettre de toute façon de leur tourner le dos complètement, parce que les États-Unis jouent un rôle crucial depuis bien avant les accords d'Oslo déjà, depuis les années 70.
Donc c'est pour conclure sur cette partie, hein, cette rupture n'est pas forcément synonyme d'impasse.
Faisons l'impasse, le statu quo, et c'est la situation dans laquelle il se trouve depuis un certain temps déjà. Ça ne fait que peut-être... jeter de l'huile sur le feu, mais de toute façon, l'impasse est là depuis bien longtemps.
Allez, on marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. Retour avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur le processus de paix au Proche-Orient. En direct de Jérusalem, Sahara Daoud, doctorante contractuelle à Sciences Po Paris, rattachée au CERI, Centre d'études en relations internationales, et à Austin, au Texas, Scott Bob, ancien correspondant de la VOA à Jérusalem. Alors avant de poursuivre la discussion, hein, voyons ce que pensent nos Facebookers. Hassan Omar Boulalet de Djibouti, la situation israélo-palestinienne reste alarmante et incertaine, avec une région confrontée au terrorisme et l'émergence de coalitions des pays arabes en concurrence. Et Alphonse Bouaki de RDC, les accords d'Oslo ont tout de même permis des avancées. L'établissement des institutions palestiniennes, l'établissement d'une économie indépendante palestinienne, malgré le blocus israélien, et la reconnaissance d'un État palestinien par la communauté internationale, quoique fragile. Alors je propose qu'on rebondisse sur ces accords d'Oslo, signés il y a 25 ans, jour pour jour, ici à Washington. Sahra Daoud, ces accords ont-ils leur part de responsabilité dans l'enlisement du conflit ?
Je pense effectivement, et pour rebondir sur la deuxième remarque de l'un de vos
speakers,
je pense que effectivement les accords d'Oslo ont permis une reterritorialisation du pouvoir palestinien, de l'autorité palestinienne en Cisjordanie essentiellement. Néanmoins, cette construction-là et cet investissement dans des infrastructures. Alors certes, on a aujourd'hui des ministères et des infrastructures officielles en Cisjordanie, mais ça reste des cadres de vide, si on veut, parce que le pouvoir est quand même très centralisé en Palestine autour de la figure du président, notamment, et du Fatah, le parti au pouvoir. Et tout ça, évidemment, participe de l'enlisement de la situation, dans la mesure où il y a une véritable rivalité aujourd'hui et des querelles intestines au sein du Fatah, mais au sein de l'échiquier politique palestinien d'une façon générale. Et d'un point de vue économique, c'est quand même une économie qui survit largement grâce aux bailleurs de fonds internationaux. Donc ça pose un problème structurel depuis les accords d'Oslo. Mmh.
Les accords d'Oslo ont notamment conduit à la création de l'autorité palestinienne, qui aurait pu être un préalable à la création d'un État palestinien. Sahra Daoud, la solution à deux États est-elle toujours d'actualité ?
Alors ça dépend du point de vue de qui. Officiellement du côté palestinien, une solution à un État est difficilement défendable et peu souvent défendue d'ailleurs. Maintenant, si on se place du côté de la société civile, très honnêtement, cette solution à un État me semble difficilement... c'est quelque chose que la société civile palestinienne aurait du mal également à accepter et à envisager. Bien que de nombreuses personnes soulignent cette fatigue du côté palestinien, cette volonté de simplement résoudre ce conflit pour pouvoir vivre une vie normale, etc.
Mais alors qu'aurait préféré la société civile ?
Comment ?
Qu'aurait préféré la société civile, si ce n'est pas un état, une solution à deux États ?
Si ce n'est pas une solution à deux États, alors dans ce cas-là, effectivement, une solution à un État, mais une solution au sein duquel les deux parties y ait une égalité en droit pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, ce qui n'est pas véritablement envisagé et ce qui n'est pas possible eu égard à la situation territoriale existante aujourd'hui.
Depuis ces accords d'Oslo, les Palestiniens reconnaissent Israël. Scott Bob, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Israël de faire de même ?
Le problème, c'est au sein de la population elle-même. Depuis la deuxième intifada, la population israélienne en général est devenue beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus méfiante envers les Palestiniens. Il y a un manque de confiance qui vraiment est très énorme et qui impède qu'on ait une continuation. Bien que, comme a dit ma collègue, l'Oslo représente une structure et sera probablement la base de ce processus si ça avance.
Alors, Sarah Daoud, aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre ? Que reste-t-il à négocier ?
La marge de manœuvre du côté palestinien, c'est quelque chose qui... c'est une stratégie, entre guillemets, qui a été mise en place après l'échec de la reprise des négociations, notamment en 2010. Ils ont essayé justement de faire en sorte que de ramener les Israéliens à la table des négociations en essayant de gagner un peu en influence et en poids du côté des institutions internationales, multilatéralistes. Donc la diplomatie palestinienne s'est tournée vers le multilatéralisme à ce moment-là pour essayer justement de gagner un peu en poids pour essayer de rééquilibrer aussi les forces autour de la table de négociation. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place dans la mesure où il y a quand même un élément qui manque crucialement et dont pâtissent les Palestiniens, c'est l'absence de reconnaissance d'un État palestinien.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'interlocuteurs, puisque certains ont rejoint les rangs du Hamas, qui ont été donc en guerre contre Israël à Gaza. Et donc finalement, même si on obtient un accord avec l'autorité palestinienne, on ne résout pas la question du Hamas et on peut se retrouver avec un accord qui n'est pas inclusif, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que, actuellement, il y a un processus de réconciliation essentiellement contre sous-médiation de l'Égypte pour donc un processus de réconciliation intra-palestinien entre le Fatah et le Hamas. Et c'est la condition sine qua non, effectivement, pour reprendre les négociations, parce que cette division intra-palestinienne ne fait qu'amoindrir les chances du côté palestinien d'aboutir à un quelconque accord. Le problème aujourd'hui, c'est que le Fatah est très réticent à l'idée de conclure un quelconque accord avec le Hamas, qui demande notamment à rejoindre l'OLP.
Et le Hamas n'était pas parti de l'OLP. Ce seront les mots de la fin. Sarah Daoud, Scott Bob, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.